Vous avez 24 minutes dans une journée.
Tout savoir en 24 minutes.
Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québecor. Voici Tout savoir en 24 minutes.
Tout savoir en 24 minutes.
Oh, les déboires de l'économie se sont encore fait sentir aujourd'hui. Si vous allez jeter un coup d'œil à vos placements, ce ne sera pas une belle journée. Les marchés boursiers aujourd'hui sont en forte baisse, à peu près tous les indices.
Pour les gens qui suivent ça de proche, c'est comme décevant parce qu'il y a eu une couple de moins mauvaises, oui. Même bonne, presque bonne journée.
On a effacé tout ça, on est vraiment
un gros coup d'éponge sur le tableau.
On est revenu au creux de la semaine dernière, donc ouais. Montée qui n'aura pas duré, des baisses d'à peu près 3% au Dow Jones, donc plus de 1000 points, Nasdaq 4%, S&P 500 4% aussi, au Canada un peu moins, 2%. Faut dire donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui semble avoir tiré les marchés vers le bas, c'est entre autres les résultats dans le commerce de détail. On sait là, hier, Walmart livrait des chiffres très décevants qui ont fait chuter l'action. Fait une baisse là qu'on n'avait pas vue en 30 ans pour le géant Walmart. Et là, aujourd'hui, c'était Target qui...
Ouais, c'est comme si hier, il restait un petit point d'interrogation, en disant peut-être que c'est juste Walmart qui a eu une malchance ou un mauvais trimestre ou des erreurs.
Puis là, on a oublié ça aujourd'hui. Target, écoute, c'est, on disait le profit a chuté de 52% dans le premier trimestre. Ça a fait tomber l'action de plus de 26%, puis ça a traîné aussi le reste du commerce de détail.
Je pense que c'est ça. Ça a traîné le commerce de détails, mais quelque part, ça a accentué l'idée que les dégâts de l'inflation sont là. Un des dommages de l'inflation, c'est sur les consommateurs, qui dépensent moins. Fait que si les consommateurs sont plus au rendez-vous, là, tu comprends, c'est toute la chaîne.
Oui, parce qu'eux disent, c'est pas seulement la clientèle qui, c'est la même chose que d'habitude, là. Chaîne d'approvisionnement très difficile, explosion des coûts en tout genre. Donc eux, si tu augmentes les prix alors que t'as une population qui veut dépenser moins, qui serre la ceinture, là, tes prix avaient tout un problème. Rappelez que ça s'ajoute tout ça à la question de la guerre en Ukraine, bon, l'inflation à travers tout ça, donc les chiffres qui sont bas. La crypto, par contre, surveillait quand même baisse de 4%, donc un peu plus élevé que les moyennes pour ceux qui suivent la crypto-monnaie. Ça amène au chiffre de l'inflation au pays qui, bon, aujourd'hui, on prouvait que c'était encore une situation très difficile. 6,8% en avril pour le taux d'inflation en hausse, un record depuis 1991. Puis là, on aurait pu aller avant ça parce que là, c'est 6,8%. Le record de 91, c'était 6,9. Donc, on est vraiment,
ça augmente de 0,1 au prochain mois.
Je sais pas à quelle date on recule, là, mais on franchit ce mur-là au Québec.
Ah, mais on va remonter au début des années 80, là. Parce que là, les taux d'intérêt, il y a eu vraiment une période difficile à deux reprises, fin 70-80, puis quand les taux d'intérêt sont montés à quasiment 20%. Là.
Et il faut dire à l'époque que les maisons coûtaient 40 000 là, ou 35 000.
Même moins.
En région, une belle maison pour 40 000. Pour ce qui est du Québec, parce qu'on avait les chiffres Canada-Québec, on est vraiment collé sur la moyenne nationale. Et là, on parle, parce que quand on ventile un peu les coûts de l'inflation, on voit où ça fait mal, puis ça fait mal malheureusement partout. Parce que quand on exclut les fluctuations du coût de l'essence, c'est ça quand même fait une partie du problème, le taux d'inflation quand même à 5,8%, ce qui est en hausse par rapport à mars. Et là, ce que ça monte, la facture d'épicerie, c'est presque 10% de hausse.
Mais l'épicerie, c'est le pire.
Les produits là, d'épicerie, le pain, on en parlait plutôt avec Guillaume Lavoie, le fait que le blé est en forte hausse. Le pain, c'est 12%, les pâtes alimentaires, c'est 19%, produits céréaliers, 14%, les fruits, les légumes, 8-10%, la viande, 10%, et tout ça s'ajoute, le prix des loyers.
Quand on donne ces pourcentages-là, juste pour aider les gens, c'est toujours mois à mois. Donc là, c'est les chiffres d'avril. Donc, quand on compare les chiffres d'avril 2022 avec avril 2021.
Exact.
Donc, le prochain chiffre du mois de mai, on va comparer quand on vous dit 10%, par exemple, pour les fruits, là, ça veut dire que les fruits coûtent en moyenne, sur l'ensemble des paniers d'épicerie là, au Canada, les fruits coûtent 10% de plus qu'en avril. Ouais. 2021, avril de l'année passée.
Le fruit qui coûtait 1$ coûte 1,10$. Mais là, on ajoute ça. Les pâtes coûtent 1$, coûte 1,20$. Et là, c'est partout parce que là, le prix des loyers monte aussi 4,5% sur 12 mois. Et le prix de l'essence, consommateur, c'est 36% de hausse en avril. Là-dessus, par contre, c'était presque 40% de hausse en mars. Donc, on a baissé un petit peu. C'est majeur le poids qu'on a à supporter. Ce qui amène d'ailleurs à voir un peu que le poids de tout ça est supporté par tout le monde, incluant les plus jeunes. Aujourd'hui, la banque CIBC révélait les résultats d'un sondage montrant que les 18 à 24 ans, malgré qu'eux ont moins d'épargne, alors eux, la baisse boursière les affecte peut-être un peu moins, mais l'inflation leur rentre dedans. 65% des jeunes Canadiens disent craindre de manquer d'argent pour payer leurs dépenses de subsistance. 42% ne sont pas en mesure d'épargner en ce moment.
Ma fille qui a une petite auto pour aller travailler, là, la façon qu'elle m'a formulé ça en fin de semaine, elle dit « Là, là, le prix de l'essence, là, c'est quoi qui se passe? Quand est-ce que ça va arrêter? » Oui, je pense que c'était ça sa vision de l'économie pour l'instant. Là.
Écoute, je me souviens quand j'étais étudiant, aller à la pompe, ça me brisait le cœur, ça coûtait à peu près 30$ faire le plein.
Ouais. Parce que là, même avec, c'est ça, là. Même avec un petit véhicule ordinaire et tout ça, si t'es vraiment vide.
Ouais, un petit VUS, j'ai mis 110$.
Oui, tu peux pas être venu proche des trois chiffres, là. Fait que là, ça, c'est comme beaucoup d'argent quand tu travailles au salaire minimum ou à peu près, là.
Ouais. Et là, imagine cet été, ceux qui ont des VR, ceux qui ont des motos marines, des... On va faire un petit tour un petit peu plus court.
Non, mais c'est sûr que le type qui a raconté à tous ses beaux-frères, « Hey, moi, je me suis acheté un VR dans la pandémie. »
Traîne pas... le gros pick-up.
Ah, ouais, non, puis n'a pas juste ça, puis le VR, là, tu sais, ça coûte pas cher, va pas à l'hôtel. Le gars, l'essence était descendue jusqu'à 1$ le litre, là, au cœur de la pandémie. Là, le VR, faire le tour de la Gaspésie, tu sais, tu fais le plein pour 1000$, là.
Ouais, tu vas à Longueuil. C'est à Montréal. Bon, ouais. C'est la situation. Alors, écoute, est-ce que ça va passer? En tout cas, c'est des temps plus difficiles pour l'économie. Dossier judiciaire maintenant qui a fait beaucoup jaser aujourd'hui, c'est celui de cette technicienne en éducation spécialisée, Geneviève Rioux, qui écope de 40 mois de prison pour avoir agressé un élève. C'est une histoire assez particulière. Elle qui était tombée en amour avec son élève âgé de 16 ans.
Tu dis tomber en amour, c'est comme ça qu'elle l'avait explicité au juge, qu'elle avait quand même romancé au juge une belle histoire.
Ouais, montrant que c'était une histoire d'amour atypique, qu'elle comparait ça à Céline et René. La juge Sophie Lavergne, écoute, n'a pas été ébranlée beaucoup par cette histoire au palais de justice de Saint-Jérôme. Il va avec les peines carrément les plus lourdes qu'elle pouvait donner à cet ex, donc éducatrice spécialisée. On parle de plusieurs facteurs aggravants. C'est une femme de 44 ans. Elle avait plaidé coupable en juillet dernier pour des relations sexuelles complètes pendant plus de 5 mois en 2018 avec un adolescent de 16 ans dont elle était intervenante. Et on parle qu'au départ, là, c'est devenu une relation fusionnelle de dépendance où là, le jeune à 16 ans ne voulait plus voir d'autres intervenantes. Et là, ça, c'est avant le début des relations sexuelles parce que c'est arrivé après que le jeune quitte l'école. Les deux ont continué de se voir et là, on est entré dans des relations sexuelles complètes. Elle a été arrêtée en 2019, remise en liberté. Et elle a recommencé, revu l'adolescent par la suite. Alors, visiblement, elle n'avait rien compris. Il faut rappeler que l'âge du consentement sexuel au pays, c'est 16 ans. Mais en cas de relation d'autorité, ben là, c'est complètement interdit pour les jeunes mineurs.
Puis là, c'est une relation d'autorité et d'intervention parce que ça dépassait la simple autorité de l'enseignant, qui est déjà énorme, oui. Mais... c'est un enfant qui a un jeune qui a besoin de services de plus, là, qui a besoin
jeune
de
vulnérable, c'est qui a ça. Différentes problématiques.
Donc là, t'es l'intervenant de plus. Là,
C'est pourquoi on est allé vraiment du côté des peines un peu plus sévères. Je vais vous faire entendre d'ailleurs la procureure dans ce dossier-là, qui était satisfaite du jugement.
Donc effectivement, la poursuite avait demandé là, une peine de 40 000 mois. Cependant, là, la décision qui a été rendue par la juge de 40 mois est tout à fait dans la fourchette. Vous l'avez entendu, elle a repris les fourchettes applicables dans le cas de ces dossiers-là et le fait que la refraison avait effectivement là, amené à une hausse là, des sentences dans le cas de ces dossiers-ci. Donc on est tout à fait là, dans une peine qui va avec la jurisprudence en ce moment.
Bon, alors la couronne est satisfaite dans ce dossier.
Mais on s'entend que c'est une peine sévère. Là. C'est un acte grave, mais c'est une peine, sans aucune ambiguïté.
Toujours dans les dossiers, judiciaires bien différents celui-là, mais des suites des fusillades qu'on a eues à Laval. On se souvient que la première de cette série de trois en quelques jours avait été une fusillade mortelle. Un homme de 28 ans qui avait perdu la vie, Junior Lemoine, printemps, abattu après que son véhicule a été criblé de balles. On se souvient qu'il y a un jeune, son neveu, Cendrick Jorcelin, qui avait été blessé très gravement, lui qui a été transporté depuis dans un hôpital de Boston. On parle de blessures qui pourraient hypothéquer sa vie à long terme. On se souvient, dans des entrevues avec ce jeune-là, il disait, lui, qu'il y avait erreur sur la personne. Il comprenait pas pourquoi on ait pu cibler son oncle. Mais la police semble aller dans ce sens-là aussi. C'est dans les hypothèses sur lesquelles enquête les policiers de la Sûreté du Québec. On se souvient qu'ils ont repris l'enquête. Ils ont déployé un poste de commandement près des lieux de l'événement ce matin parce qu'ils recherchent de l'information. Benoît Richard, le porte-parole de la Sûreté du Québec, disait aujourd'hui, on fait appel aux gens qui auraient pu voir quelque chose dans la nuit du 8 mai, c'est-à-dire un véhicule noir, le véhicule de la victime qui circulait sur le boulevard Curé-Labelle en direction nord. Le véhicule pâle s'est approché de lui, aurait fait feu en sa direction, il aurait pris la fuite par la suite en direction nord sur le boulevard Curé-Labelle. Il dit, si quelqu'un a entendu quelque chose, même entendu parler de quelque chose, vous pouvez vous présenter de façon anonyme à ce centre-là.
Ce matin, quand j'ai entendu ça, j'ai quand même été étonné. Un véhicule pâle.
Oui.
Bon, c'est sûr que la couleur soit pas précise, mais mettons, je sais pas comment, mais si quelqu'un a vu qu'il était pâle, mettons, tu te dis, mais c'est plus, mettons, un Hyundai Accent ou un Lincoln Navigator, tu comprends?
Ouais, toi, t'aurais peut-être repéré plus de détails.
Ben, je sais pas comment tu peux savoir qu'il est pâle. Pâle. Au moins savoir, il est-tu gros, moyen, immense, tout petit,
Tu fais de carré à haillons, tu es un van. C'est sûr que, ça passe vite, là.
Non, mais
c'est vrai que c'est une description, simpliste.
Ouais. Ou bien que les policiers, ou bien qu'il y a une stratégie policière, quelque chose là-dessus. Mais j'ai, parce que là, écoute, c'est un véhicule pâle. Je veux dire, c'est quoi? Les véhicules, il y en a 50% de pâle.
Non, c'est ça, les policiers vont pas commencer à vérifier tous les véhicules pâles, de la ville.
Ouais.
Mais, cherche quelqu'un, des fois, qui aura entendu de l'information. Alors, ça fait partie de ce qui a été fait par les policiers.
Mais c'est une erreur sur la personne, là, tu sais. C'est comme
assez grave.
Mais là, quand la personne est abattue, l'autre jeune, un ado de 14 ans qui est peut-être handicapé, il y a une balle le long de la colonne, peut-être handicapé pour sa vie, comment c'est une grosse erreur sur la personne. C'est déjà fou là, de tirer sur un véhicule quand il y a plein de monde, mais si en plus c'est un véhicule où personne n'est concerné, c'est vraiment épouvantable.
Un mot sur la COVID. Aujourd'hui, le bilan on parle de 14 nouveaux décès. Les hospitalisations qui sont en baisse. On sait qu'en début de semaine, on avait une hausse. On était à moins 35, moins 6 aux soins intensifs. Donc, un total de 1599 personnes hospitalisées.
Mais là, c'est aux États-Unis là, que ça c'est reparti à la hausse. Avec le variant BA?
Oui, des variants.
BA 1.12, je sais plus quoi. Il y a un 12 puis un 1 là-dedans. Mais aux États-Unis, mais surtout d'ailleurs dans la partie des États-Unis la plus proche de nous, la Nouvelle-Angleterre, là, New York, ça c'est reparti, pas une vague de fou, mais c'est reparti clairement à la hausse.
À certains endroits, le taux de vaccination est bas, et moins de gens qui l'ont eu aussi que chez nous, alors ça dépend des endroits, mais oui, il y a des inquiétudes.
Tout savoir en 24 minutes.
Le prince Charles est à Ottawa.
Oui,
aujourd'hui,
monsieur.
Mario, deuxième journée
enfin.
De cette visite. Enfin, mais écoute, as-tu vu son horaire de la journée?
Travaille fort, là.
Écoute, ça chôme pas. Là. Le prince Charles et la duchesse de Cornouailles qui commençaient, eux qui étaient à Terre-Neuve hier. Ce matin, était à Rideau Hall avec la gouverneure générale Mary Simon. Cérémonie d'investiture de l'Ordre du Mérite militaire. Après ça, ils ont été au monument commémoratif de la guerre. Ensuite, prière à la cathédrale orthodoxe d'Ottawa pour les Ukrainiens.
Mais j'étais surpris, je pensais que c'est le mercredi matin qu'il avait ses cours de français. Je disais, elle va dire au prince, hey, je peux vraiment pas.
Il est en immersion.
Hein?
Il est en immersion.
Lui aussi? Lui, il parle français.
Oui, très bien.
Ouais,
ok, tu parlais
ça.
de Madame
ouais.
Camilla.
Non, de Mary Simon, la gouverneure générale.
Ben, tu penses pas qu'il parle français?
Ah, ben c'est peut-être ça.
À mon avis, il parle français.
Il parle français ensemble. Ça lui fait une occasion de pratiquer.
Dit, à porte close, c'est sûr que c'est en français.
Ben oui, elle s'est dit, tu parles d'une belle chance que j'ai, ça me donne une occasion de pratiquer.
Bon, et qu'est-ce qu'on fait évidemment en après-midi à Ottawa? Qu'est-ce que tout le monde va te dire, Mario, d'aller faire? Ben, aller au marché bail.
Ah oui, il est allé au marché bail.
Il est allé au marché bail.
Ben voyons.
Mais qui, écoute, qu'est-ce qu'il y a à faire à Ottawa pour aller faire un tour au marché bail? Ben,
mais là, quand tu manges rien qu'au restaurant, qu'est-ce que tu fais si tu achètes des légumes, t'es laisse pourrir dans ta veste. T'as même pas le droit de ramener ça, là.
Non, mais tu peux goûter à des trucs.
Ah, okay.
À mon avis, c'est peut-être ça qu'il y a fait. Rencontrer des élèves ensuite, dans une école primaire. Va rencontrer de jeunes Afghanes qui sont installés au Canada après avoir fui le pays. Plein de bons dossiers, mais je me dis, écoute, à un après l'autre, là, à chaque fois, faut que tout le monde super empathique, puis tu sais, il dit ah oui, c'est vraiment important pour moi, mais t'en fais quand même pas mal. Et en fin d'après-midi, rencontre le premier ministre Justin Trudeau, la gouverneure générale aussi, pour parler de changement climatique. Puis là, ce soir, c'est le party, réception pour les 70 ans de la reine qui est pas là, avant de s'envoler pour Yellowknife. Mais il y avait, parce qu'on se demande, est-ce qu'il y a de l'intérêt pour le prince Charles, au Canada, il y avait quand même des gens qui étaient là pour l'accueillir. Notre collègue Raymond Filion a fait un petit vox pop. Vous allez entendre des gens très heureux qui avaient même mis des chapeaux un peu style monarchique. Et un représentant des manifestants qui était sur place, anti-monarchique, vous allez le reconnaître, on les écoute.
Qu'est-ce que ça vous fait de l'avoir rencontré?
Je sais pas, c'est comme une figure très importante, très connue dans le monde.
J'ai pu serrer la main du prince Charles deux fois et sa femme trois fois. C'est mieux sa femme, je pense. Eux aussi, aujourd'hui.
Il nous a demandé si on étudiait puis si on allait à l'université. Il était vraiment gentil.
J'ai vu la reine Elisabeth en 2006 quand elle est venue à Edmonton. Alors, j'ai décidé de venir aujourd'hui aussi.
On entend tellement parler, on les a vus à la télé depuis si longtemps, là, c'est l'opportunité de le voir en personne.
Moi, personnellement, je n'aime pas la monarchie. Je pense que c'est antidémocratique pour un monarque d'avoir des droits de veto sur les décisions d'un parlement.
Bon,
ouais. Bon. Là,
on s'entend que le veto...
L'a pas utilisé.
Pas utilisé souvent.
Non. Moi, j'ai siégé au Parlement pendant 15 ans. Aucun de mes votes qui a été renversé par la reine Elisabeth II ou ses représentants.
Ça t'empêchait pas de dormir.
Non.
Donc, demain, au territoire du Nord-Ouest, est-ce que ça semble une réussite, ce voyage-là? Est-ce que ça passe dans le beurre?
Il y a du beau temps.
Oui, ça y est.
Donc c'est une réussite.
Je sais pas comment ils annoncent à Yellowknife demain, par contre.
Ouais, faudrait vérifier. Mais je sais pas quoi te dire. C'est une visite là. Moi, ils parlent des changements climatiques, mais je veux dire, il y a plein de monde qui en parle là. Est-ce qu'il va?
Ouais, lui, est-ce que c'est une autorité quelconque en matière?
Ben c'est ça. Là. Est-ce que c'est vraiment une autorité qui peut?
Ils peuvent mettre des éoliennes sur la terre de la couronne là.
Ouais.
Mais.
Fait que c'est pour ça que c'est un bien beau voyage. Fait que, tu sais, je regarde son horaire aujourd'hui. Je me dis, mais quand même, pour un monsieur de 73 ans, il en fait beaucoup, mais il fait de quoi d'inutile, mais il le fait à temps plein. Hein? Non, mais...
Oui, il le fait avec vigueur.
Oui, c'est
avec
ça.
Avec vigueur. Bon, excellent.
Je respecte ça.
Bon, parlons politique maintenant. Peut-être quelque chose que tu vois comme moins inutile en Alberta, parce que Jason Kenney a une soirée importante ce soir, à savoir est-ce qu'il demeurera à la tête du Parti conservateur uni de l'Alberta. On sait que Jason Kenney a fait face à beaucoup d'opposition à cause de la pandémie. Lui qui est arrivé avec le passeport vaccinal, masque obligatoire, ça a fait de la grogne dans la population, mais aussi à l'intérieur de son parti. Ça amenait des divisions, l'expulsion même de deux députés, faire sortir l'ancien chef du parti Wild Rose qui veut le faire tomber. Des chiffres de popularité selon les sondages qui montrent qu'il y a à peu près 30% d'appui. Ce qui inquiète plusieurs conservateurs, à savoir à des niveaux comme ça, ça ne donne pas beaucoup de chance à l'élection générale.
Plusieurs sondages consécutifs qui mettent la Rachel Notley, l'ancienne première ministre néo-démocrate, mais le NPD, ils l'ont gardé chef du parti. Plusieurs sondages consécutifs, je dis plusieurs sur une longue période, qui mettent le NPD gagnant en Alberta. Là.
Et il y avait eu aussi un peu une histoire à la Boris Johnson, moins multiple, là, mais Jason Kenney avait fait des photos avec des ministres l'an dernier pendant que les Albertains, eux, devaient suivre des règles, alors ça avait mal passé. Mais tu le qualifies d'habile, est-ce qu'il va s'en sortir?
C'est un politicien très habile, c'est lui qui avait réussi quand Stephen Harper est devenu majoritaire parce qu'il avait gagné dans les banlieues là, de Toronto. C'est pourquoi Jason Kenney qu'on avait donné le crédit pour avoir réussi comme ministre de l'immigration à ramener les communautés culturelles avec des conservateurs puis tout ça. Qui était traditionnellement libéral. Mais là, il y a une couple d'affaires qui se passent. Une de celles-là, c'est que dans la pandémie, il a un peu perdu des deux bords. Parce qu'il a voulu être... Il voulait être celui au Canada qui allait mettre le moins de mesures sanitaires. Fait que là, les gens qui souhaitaient des mesures sanitaires disent, ben regarde, là, nous autres, là, on a eu plus de cas. Il y a même une vague où on a eu tellement de soins intensifs. Il a fallu envoyer nos patients de soins intensifs dans la province voisine, etc., etc. Mais ceux qui voulaient de la liberté, mais de la grosse, là, de la vraie liberté, ils trouvent que ça n'a pas de bon sens. Là. Il y a eu des confinements, il y a eu des fermetures, il a poussé sur le vaccin.
Le passeport vaccinal.
Contre le vaccin, puis tout ça. Fait que là, il y en a qui en veulent aussi. Dans son parti, il y a eu des démissions. Fait qu'il y a des insatisfaits vraiment des deux côtés. Plus le fait que là, les chiffres montraient qu'il ne gagnerait pas les élections. Mais quand même grosse fermette dehors de son parti. Là. C'est pas un premier ministre au pouvoir. Fait que moi, je suis pas certain, Vincent, qu'on va avoir une vraie réponse ce soir. le scénario où il reste chef du parti, mais avec, mettons, 54%, 56%. Mmh. Puis lui, il a dit que s'il avait son 50+1, il a la majorité, il reste. Mais là, l'élection s'en vient. Tu gères ça comment, un parti, que tu as 45% des membres qui ont voté contre toi, là?
Ouais. C'est des taux assez bas pour régner, là.
Ouais. Parce que là, gérer un gouvernement, là, c'est correct, là, mais tu sais, dans un parti, c'était, tu sais, tes propres membres, tes propres fidèles croient pas en toi. Fait qu'ils vont-tu militer? Ils vont-tu aller poser des affiches? Ils vont-tu juste bouder, rester chez eux? Ils vont-tu continuer à grenouiller, ouais, en disant, regarde, on va y refaire une jambette dans le prochain détour, bon, on va finir par
se qu'on rentre dans les rangs ou on regimble, ouais, jusqu'à l'élection?
Fait que c'est bon. Pour ça qu'il pourrait se retrouver un résultat ce soir où c'est réglé puis c'est pas réglé. Puis l'autre chose absolument fascinante, c'est que c'est le début de la série Flames de Calgary, Oilers d'Edmonton ce soir. Et j'ai pas vu d'heure, j'ai pas trouvé d'heure à nulle part, mais on dit que le résultat du vote de confiance sur Jason Kenney va sortir ce soir.
Bon, on va entre la deux.
Grosse soirée en Alberta, le duel de l'Alberta au hockey, puis la survie du premier ministre, du chef conservateur dans la même soirée.
Bon, à surveiller ce soir. Un mot sur l'Ukraine. Enfin, l'Ukraine et ses conséquences. La Finlande, la Suède ont soumis aujourd'hui officiellement leur demande d'adhésion à l'OTAN. Alors, à Bruxelles, les ambassadeurs de la Suède et de la Finlande, qui, il faut dire, Finlande partage 1300 kilomètres de frontière avec la Russie, ont présenté leur dossier de candidature. Ça a été salué par le secrétaire général de l'OTAN aujourd'hui, qui a parlé d'un moment historique. La première ministre finlandaise souhaite que ça se fasse de façon rapide, mais on sait que la Turquie, membre de l'OTAN, Erdogan, veut s'opposer à cette adhésion. Puis là, on comprend qu'il y a des parlementaires. On essaie de négocier avec la Turquie
Il y a des diplomates suédois et finlandais. Il y a des diplomates qui sont à Ankara ou en route vers Ankara là, pour aller rencontrer, aller plaider leur cause au gouvernement turc.
Parce que, écoute, Joe Biden, partout on accueille ces deux membres-là à bras ouverts.
Je pense que la vérité, c'est que les Turcs essaient d'obtenir quelque chose, de régler des petits problèmes qui les tannent, entre autres avec les Kurdes, mais qui vont pas dire... Ils vont pas
ultimement,
aller contre la volonté des Américains puis refuser quelque chose d'aussi logique, là.
Un militaire russe aussi aujourd'hui a plaidé coupable d'avoir abattu un civil ukrainien dans un tribunal à Kiev où se tient, c'est le premier procès pour crime de guerre depuis le début de cette invasion. Donc ce jeune homme de 21 ans, Vadim Chichimarin, a comparu enfermé dans un box vitré aujourd'hui. On lui a demandé s'il reconnaissait les faits. Il a dit oui dans leur intégralité. Il a dit oui. Lui qui est accusé de crime de guerre, meurtre avec préméditation. Ce qui est arrivé, lui, c'est quelqu'un d'originaire de Sibérie, en cours la prison à perpétuité. Parce que là, ce qu'on lui reproche, c'est qu'il circulait près du village de Choupak-Vika, dans la région de Soumy, et avait croisé un homme de 62 ans qui poussait son vélo tout en téléphonant. Et eux, lui et quelques militaires qui avaient volé une voiture, lui s'est fait ordonner de tuer le civil pour pas qu'il les dénonce. Qu'il a fait d'un coup de Kalachnikov, le tuant sur le coup. Il y a eu enquête et il a été par la suite arrêté. Écoute, il y a 11 000 enquêtes en cours et ça, c'est un peu la première, le test pour le système judiciaire ukrainien pour ce type de dossier-là qui vont se multiplier dans les prochains mois et les prochaines années. Et on a une urgence d'aller rapidement, là, des procédures qui sont beaucoup plus rapides que d'habitude. D'habitude, ça prend des années avant qu'il y ait un verdict. Et là, dans ce genre de dossier, on veut aller beaucoup plus vite et peut-être que la plaidoirie de culpabilité
c'est un peu la réplique à la barbarie par la justice, par les tribunaux, et c'est plein de bon sens, là, j'espère. Mais là, c'est juste que pour documenter 11 000 enquêtes, pour documenter tout ça, ça prend l'ONU, ça prend des partenaires, le Canada, des gens qui vont participer à ces enquêtes-là, et ça en prend, là.
Absolument, ça sera immense. Et d'ailleurs, toujours pour ce qui est de l'international, Joe Biden part pour un voyage en Asie, cette semaine, Corée du Sud, le Japon, ça commence cette semaine, et il y a quand même une inquiétude pour les États-Unis que la Corée du Nord procède à soit un tir de missile ou à un essai nucléaire pendant que Joe Biden sera à côté, là, lorsqu'il est en Corée du Sud. Écoute, il est tout prêt. On dit chez les Américains qu'on est prêt à toute éventualité. On est prêt également à bouger des troupes, des navires de guerre si on a besoin pour assurer la sécurité.
Si j'étais Kim Jong-un, c'est quelque chose que je réfléchirais comme il faut. Là.
Tout à fait raison. D'ailleurs, on avait exclu que Joe Biden visite la zone démilitarisée là entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Alors ça, c'est exclu.
Mais Séoul, c'est pas loin. C'est à une centaine de kilomètres de la frontière. C'est pas même un petit peu moins là.
Très près. Mais on s'entend. T'as tout à fait raison. Écoute, parce qu'il y a quand même une certaine logique. Kim Jong-un, au-delà de la menace, je pense pas qu'il y ait de réel danger pour le président pendant son séjour. Voilà.
Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.